Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et je vous invite à ouvrir vos Bibles afin de lire le texte de la prédication et deux textes complémentaires. Le premier dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 41 à 44. Assis vis-à-vis du tronc, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Ensuite, en Exode, au chapitre 22, des versets 21 à 23. « Vous n'accablerez pas la veuve ni l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient à moi, je saurai entendre leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous tuerai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. » Et enfin, un dernier texte, alors dans le Nouveau Testament, en 2 Corinthiens, au chapitre 8, des versets 7 à 15. De même que vous excellez en tout, en foi, en parole, en connaissance, en empressement de tout genre et en votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi en cette œuvre de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'empressement des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui dès l'année dernière avez été les premiers non seulement à faire cette collecte, mais à la vouloir. Maintenant donc, achevez de la faire, afin qu'en bonne disposition manifestée dans le vouloir, corresponde l'achèvement selon vos moyens. Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a, mais non de ce qu'on n'a pas, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre abondance pourvoira à leur indigence, afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence. De la sorte, il y aura égalité, selon qu'il est écrit, « Celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. »
Tout donner au Saint-Esprit, c'est tout recevoir de lui. Si nous donnons toutes les commandes de notre vie, celui qui a inspiré les Écritures va aussi nous permettre de comprendre ces Écritures. C'est sur lui que nous comptons encore aujourd'hui, pour ma part, pour vous le transmettre et pour chacun, pour l'entendre et l'écouter. Quelle joie d'ouvrir l'Évangile ensemble. En fait, tous les derniers dimanches du mois, nous ouvrons un Évangile, c'est l'Évangile de Marc actuellement, que nous suivons petit à petit. Et dans notre cheminement de Marc, qui est en fait, comme les trois autres Évangiles, un éclairage de la vie de Jésus sur cette terre, qui sont des regards croisés, qui sont différents et complémentaires. Nous sommes arrivés en fait à la dernière semaine de vie de Jésus. Donc on est dans Marc 12. La dernière semaine de vie de Jésus. Et en fait, elle a commencé par un dimanche particulier. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le dimanche de la dernière semaine de vie de Jésus? L'entrée dans Jérusalem exactement, le jour des rameaux, où il a été acclamé par le peuple. Le lundi, le lendemain, Jésus a fait de l'ordre au temple. Je raconte pas tout ce qui s'est passé, simplement des points clés. Donc il a fait de l'ordre dans le temple, qui en fait devait être un endroit de prière et qui est devenu en fait un endroit de profit financier. Mardi, il a commencé par enseigner au temple. Il a répondu à des questions pièges et a posé une question qui permettait de comprendre qui il était. Ça, nous l'avons vu la dernière fois. Et Jésus a terminé de parler au peuple. Donc c'était les dernières paroles qu'il a dit à la foule. Et là, il va maintenant enseigner ses disciples. Jusqu'à la fin de son ministère, jusqu'à sa mort, en fait, il enseigne ses disciples maintenant. Et avant de sortir du temple, Il les enseigne en observant et commentant les dons qui sont faits dans le temple. C'est le texte d'aujourd'hui. C'est la période de Pâques, l'une des fêtes annuelles où tout le peuple d'Israël se retrouvait à Jérusalem, vers le lieu où Dieu manifestait sa présence. C'est le rappel de la sortie d'Égypte, de l'agneau qui a été donné à la place de l'aîné, du départ du pays de l'esclavage pour aller vers la liberté. Il y avait donc beaucoup de monde à Jérusalem. Beaucoup de monde. Et tous ceux qui y venaient allaient dans le temple et ils n'oubliaient pas de mettre l'argent qu'ils avaient préparé pour le donner à Dieu au temple. Donc beaucoup de monde dans ce temple et tous ceux qui venaient à Jérusalem allaient dans le temple et mettre l'argent qu'ils avaient préparé pour le donner au temple. Alors Jésus allait sortir de ce temple avec ses disciples et il s'arrête dans le lieu où les Israélites mettaient leurs offrandes. Il y avait 13 troncs en forme de trompette renversée pour recevoir les offrandes. Quelques-unes avaient étaient pour des offrandes particulières et 6 étaient pour des offrandes générales. Et là, Jésus observe. Il observe et il commente ce qu'il voit. Ce sera notre premier point. Jésus observe et commente les dons. Le deuxième point sera une réflexion sur nos dons suite à cette observation, ce commentaire et l'enseignement biblique à ce sujet. Et donc le deuxième point s'intitulera « Des clés pour la gestion de l'argent ». Donc le titre de cette prédication est, je le disais tout à l'heure à un jeune, c'est vrai que ça peut être un peu provocateur, mais « Combien d'argent faut-il donner à Dieu ?» Bon, je ne viens pas avec des factures à la fin, n'ayez pas peur. Donc c'est simplement une réflexion qu'on va faire maintenant en lien avec ce que Jésus a observé et dit et avec le reste de l'Écriture. Donc commençons par notre premier point, si vous avez vos Bibles, gardez-les ouvertes dans Marc, chapitre 12, nous allons relire ces versets 41 à 44 pour les avoir bien en tête. Assis vis-à-vis du tronc, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus appela ses disciples et il leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Jésus regarde la foule mettre de l'argent dans le tronc. Il observe ce que nous pouvons tous voir et entendre. Les pièces qui tombent dans le tronc, la quantité du don, l'aspect des personnes qui viennent le faire, la manière dont chacun agit pour montrer ou cacher ce qui est donné, l'attitude extérieure de joie, de paix, de douleur, de mépris, de reconnaissance, manifestée sur les visages par des gestes ou par des paroles. Jésus et les disciples observent. Jésus voit plus que les autres encore, car il est Dieu. Il connaît exactement le revenu et les besoins de chaque personne qui vient faire une offrande. Il sait exactement les réserves et les richesses de chacun. Rien ne lui est caché. Jésus voit également dans le cœur les motivations, l'attitude intérieure qui correspond ou non à l'attitude extérieure démontrée. La parole de Dieu nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est dans 1 Samuel 16. Les disciples, en fait, devaient être ébahis par les montants donnés par les riches. Tous ces pèlerins qui venaient, qui apportaient tout cet argent, ils donnaient sûrement plus que ce que les 12 hommes possédaient tous ensemble. Et leur admiration devait être sans borne. Ils étaient peut-être même reconnaissants, mais sûrement à Dieu, pour toute cette abondance donnée au temple pour le service des Lévites qui s'occupaient du bon fonctionnement de ce lieu, qui manifestait la présence de Dieu parmi le peuple. Lorsque les pauvres arrivaient au tronc, ils mettaient quelque chose, le don n'était pas impressionnant. Sûrement même que chaque disciple avait dans sa bourse plus que ce qui était donné. Peut-être avait-il même de la pitié lorsqu'il voyait ces pauvres venir apporter quelques pièces. mais il n'était sûrement en tout cas pas admiratif par ses dons insignifiants. Et c'est là que Jésus choisit de les interpeller, hein, d'interpeller de ses disciples et de les aider à avoir un regard mieux exercé sur les dons. Jésus veut que ses disciples soient capables de voir la valeur des dons qui n'est pas premièrement liée au montant, mais à ce que cela signifie pour celui qui les donne. Donc ici, Jésus veut faire un changement de regard à ses disciples. C'est pour ça qu'on parle du regard ici. Jésus veut que ses disciples soient capables de voir la valeur des dons qui n'est pas premièrement liée au montant, mais à ce que cela signifie pour celui qui les donne. Ne méprisons pas les petits dons même que nous pouvons donner. Nous aimerions donner plus, mais nous ne possédons pas. Et même parfois, tout ce que nous avons nous semble si dérisoire. Est-ce vraiment utile de le donner à Dieu? Au regard de Dieu, les deux petites pièces de la veuve ont plus de valeur que les richesses impressionnantes des autres. Car elle donne de manière sacrificielle pour Dieu. Ne nous méprisons pas en donnant peu, si nous possédons peu. La valeur aux yeux de Dieu est en lien avec ce que nous possédons, pas avec ce que nous n'avons pas. Nous ne devons pas rêver ou attendre d'avoir plus pour donner plus. Un don sacrificiel, même deux petites pièces de cuivre, a bien plus de valeur aux yeux de Dieu que des kilos d'or superflus. Et si nous pouvons l'apprendre pour nous-mêmes, nous pouvons aussi l'apprendre en regardant les autres. Si quelqu'un amène une toute petite offrande, mais que cette personne le fait de manière sacrificielle, nous devons la considérer comme plus généreuse que celui qui donne son superflu. Donc pour nous-mêmes, on se dit, ben oui, même si je peux donner que peu, pour la veuve elle-même, elle peut peut-être même se mépriser. Non, il n'y a pas à se mépriser. Pour Dieu, même les deux petites pièces sont peut-être bien plus que tout l'or que d'autres peuvent amener. Jésus veut changer le regard de ses disciples. Est-ce que nous sommes prêts à changer nos regards? Les disciples étaient admiratifs face à tout l'argent qui entrait. Deviendraient-ils admiratifs de celui ou celle qui donne deux petites pièces qui correspondent à ce qu'il a pour vivre? Parlons maintenant un peu de l'attitude dans le don. J'entends régulièrement l'expression « ce qui est important, ce n'est pas le montant, c'est l'attitude ». Vous avez déjà entendu ça? C'est pas important le montant, c'est l'attitude qui est importante. Et des textes bibliques tels que 2 Corinthiens 9, 7 sont cités à l'appui. Vous connaissez peut-être ce texte. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bon, je suis d'accord avec 2 Corinthiens 9, 7, évidemment, nous sommes d'accord avec la parole de Dieu. Mais est-ce que Jésus, dans notre texte de Marc ici, parle de l'attitude de ceux qui donnent? Est-ce qu'il parle de ça? De quoi Jésus parle-t-il ici? Il parle uniquement du montant, d'ailleurs, si vous commencez à regarder le texte. Il n'est rien dit de la manière, ni même du cœur des riches qui donnent ici. C'est pas dit. C'est vrai qu'ailleurs, dans Matthieu 6, il est dit que les riches... Je me reprends, parce que c'est pas ce que le texte dit. Le texte dit « les hypocrites ». Font jouer de la trompette devant eux quand ils vont donner l'aumône ou qu'ils donnent de l'argent dans les synagogues. Alors des fois on a un peu ça en tête quand on lit ce texte, mais c'est pas écrit, c'est pas dit. On ne sait pas comment les riches donnaient ici. Il n'est pas dit ce qui était dans leur cœur. Il n'est pas non plus parlé de la manière dont la veuve donne son argent. Le fait-elle avec joie ou avec tristesse? Le fait-elle sous pression ou en toute liberté? Est-elle inquiète de ce qu'elle va manger? Ou est-elle remplie de confiance envers celui qui prend soin des oiseaux? C'est pas écrit. Et Jésus ne le dit pas. Rien dans ce texte n'est dit, ni d'ailleurs dans un texte qui raconte la même situation dans Luc. On a des textes parallèles parfois, puisque les évangiles racontent l'histoire de Jésus. Évidemment, il y a des éléments qui se retrouveront dans les différents évangiles. Et dans Luc 21, on a la même situation. Et là non plus, nous n'avons pas d'information sur l'attitude de cœur. Aucune information. Alors si Jésus parle positivement du montant donné par la veuve, qui nous aidera quand même un peu à supposer l'attitude, Jésus ne dit rien sur sa motivation. Alors c'est vrai que je suis quand même un peu réfléchi, qu'est-ce qui peut pousser cette veuve à donner de l'argent et à donner même de son nécessaire. Eh bien, je vois deux raisons qui peuvent pousser la veuve à donner comme elle l'a fait. Et ces deux raisons, en fait, ne s'excluent pas. Elles peuvent mettre les deux présentes. La première, c'est quand on reprend le contexte de ce texte, Jésus vient de condamner les scribes en disant, regardez au verset 40, le verset juste avant, il a dit, « Ils dévorent les maisons des veuves et font pour l'apparence de longues prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. » En fait, la veuve est instruite par les scribes qui étaient très dépendants des dons, en fait. Pour beaucoup, c'était leur manière de vivre, c'était par les dons. Alors cet enseignement poussait chacun à donner le maximum avec des promesses de bénédiction hein, telles que ben, Malachie 3.10, dans l'Ancien Testament, il l'avait ce texte. « Apportez à la maison des trésors toute la dîme afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. » Et les scribes enseignaient cela. Hein, ceci afin d'avoir le plus de revenus possible et non pas de mettre en pratique ce qu'ils enseignaient. Les pauvres qui avaient du respect de la parole de Dieu suivaient ces enseignements, même s'ils ne recevaient rien de ceux qui auraient dû prendre soin d'eux. C'est donc la motivation du devoir, ou peut-être même le rêve de voir les écluses du ciel s'ouvrir, qui est dans le cœur de cette veuve qui était alors un modèle de l'affreuse manière de dévorer la maison des veuves. D'ailleurs, après cette situation avec la veuve, Jésus va sortir de Jérusalem, il va sortir du temple, et il va parler du jugement, de la destruction. Et le texte de Exode 22, qu'on a lu tout à l'heure, nous indique bien que la colère de Dieu est provoquée par l'accablement des veuves. Ainsi, cette situation avec la veuve souligne la raison de la venue du jugement. Mais la veuve peut aussi avoir une autre motivation que la pression des scribes. Jésus, d'ailleurs, vient de parler des mauvais scribes, c'est vrai, mais il présente maintenant un exemple positif d'une personne méprisée, qui met en pratique, d'ailleurs, les enseignements qu'il vient de donner. Intéressant, quand on va reprendre les questions qui lui ont été posées, face à la question de l'impôt dû à César, qu'est-ce que Jésus avait répondu ? « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » On se souvient, ça c'était la clé. Hein? Qu'est-ce qui appartient à Dieu ? Tout. Donc cette femme est le modèle. Elle donne tout. Ou encore, face à la question de la résurrection, Jésus avait dit que Dieu est le Dieu des vivants. La résurrection est réelle selon l'Écriture et la puissance de Dieu. Il avait insisté sur la notion d'Écriture et de la puissance de Dieu. Eh bien, cette veuve montre qu'elle croit aux Écritures et à la puissance de Dieu qui prend soin. Ou encore face à la question du plus grand commandement. Vous connaissez le plus grand commandement ? Ils étaient venus essayer de lui demander quel est le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Eh bien ici, on pourrait dire que la veuve dit « J'aime Dieu de toutes mes forces, de toute ma pensée et de toute ma fortune. » Est-ce qu'elle est consciente que Dieu prend soin des veuves et les défend ? Est-ce qu'elle est remplie de foi ? Place-t-elle confiance, sa confiance en Dieu pour son avenir ? En tout cas, si la réponse était positive à ces questions, la veuve ne ferait pas autrement que ce qu'elle a fait. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ni le texte ni Jésus ne permet de savoir exactement quelle était l'attitude des riches et de la veuve. Nous ne le savons pas exactement. Le texte ne nous le dit pas. Mais l'avis positif du don de Jésus de la veuve me fait pencher plutôt pour une attitude modèle de la veuve, qui se manifeste par le montant du don, qui sera l'objet de notre troisième réflexion pour ce premier point. La femme ne donne pas une grande somme, c'est vrai. J'ai fait un petit calcul en prenant, j'ai essayé de chercher une moyenne de salariale, etc. Donc, si je prends 5000 francs de moyenne salariale, ça signifierait que la veuve met 2 pièces de 1 franc dans le tronc. Si on a les proportions, un petit peu pour qu'on comprenne ce que ça fait. 2 pièces de 1 franc, c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce qui me frappe, c'est que la veuve n'a pas mis qu'une pièce dans le tronc. Elle en avait 2. Elle aurait pu en garder une et donner l'autre. C'était possible. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Est-ce que le montant était important ? Moi, je le crois. Je crois que le montant était important parce qu'il est souligné par Jésus. C'est le montant qui indique qu'elle a mis son nécessaire. C'est le montant qui indique que les riches ont mis leur superflu. C'est le montant qui permet de le savoir, que c'était de son nécessaire et que c'était de leur superflu. Cela tord le cou à cette idée que ce n'est que l'attitude qui compte, car le montant va aussi démontrer l'attitude. J'ai même lu que certains avaient utilisé cette petite histoire pour dire, ben maintenant je donne ma pitance de la veuve. Un riche qui vient et donne ses deux pièces de 1 franc, comme ça, je donnais ma pitance de la veuve. Vous imaginez? C'est l'attitude qui compte!
D'accord.
Ça me fait penser, cette veuve d'ailleurs qui donne tout ce qu'elle a, me fait penser à l'histoire de la veuve de Sarepta, chez qui Élie est allé. Vous vous rappelez de cette histoire? Élie est allé donc chez une veuve à Sarepta, et il lui dit comme ça, il lui demande, ben, fais-moi un gâteau avec tout ce qu'il te... Et il lui restait en fait que le matériel pour faire un gâteau. Il dit, mais va me faire ce gâteau pour moi.
Ça met un peu la foi quand même en
action ici. Hein. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a tout donné. Elle a fait ce gâteau, elle lui a donné. Et elle a été nourrie pendant toute la famille. Mais d'abord, elle a dû se dépouiller de donner tout ce qu'elle avait, rien à voir sur lequel elle pouvait s'appuyer pour ainsi ne s'appuyer que sur Dieu seul, sans même encore savoir comment Dieu allait répondre. En donnant de son nécessaire, la veuve que Jésus a observée fait de même. Est-ce qu'elle le faisait en se souvenant de l'histoire de la veuve de Sarepta? Nous ne le savons pas. Mais son attitude peut être la même, car elle donne son nécessaire, ce qui implique qu'elle compte sur Dieu pour ses besoins. En tous les cas, cette veuve est une image de ce que Jésus va faire. Il va tout donner. Tout donner pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Jésus n'a pas gardé une seule goutte de son sang pour lui. Il s'est donné entièrement pour que nous puissions vivre. Jésus n'a pas gardé une seule pièce. Il nous a donné toute sa richesse jusqu'à sa vie. D'ailleurs, ne sommes-nous pas héritiers de ses richesses? Vous savez, il est impossible d'acheter notre salut. Il n'est pas possible de payer pour purifier notre conscience. Le seul paiement, c'est la vie de Jésus-Christ qui peut nous libérer du juste jugement qui pèse sur nous. Donc, avons-nous placé notre vie dans la main de Dieu? En fait, cette veuve l'a fait concrètement en donnant tout ce qu'elle avait. En fait, elle a placé sa vie dans la main de Dieu. Et par rapport à cette notion du nécessaire et du superflu, là je fais un lien par rapport à notre salut. Il n'est pas possible d'être sauvé en ne laissant le contrôle à Dieu que du superflu de notre vie. Ce n'est pas possible d'être sauvé en ne laissant le contrôle à Dieu que du superflu de notre vie. S'il ne purifie que le superflu, eh bien le juste jugement reste sur tout le reste. C'est en donnant tout ce que nous avons, en devenant conscient que tout appartient à Dieu et en cherchant à utiliser les dons, les capacités, les moyens que Dieu nous donne en intendant, en gestionnaire des biens qui en fait lui appartiennent, que nous manifestons réellement que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. C'est lorsqu'on dit, mais en fait tout ce que j'ai c'est à lui. Quand on est entré dans le royaume de Dieu, c'est la pensée qui doit nous habiter. Donc si cet épisode de la dame veuve qui donne deux petites pièces peut nous faire changer de regard sur les dons. Donc si on se dit, mais j'ai rien à donner, ben donnez que ce que vous avez. N'imaginez pas avoir plus pour être bien devant Dieu. Les deux pièces étaient pour Dieu plus que toutes les autres richesses. Deuxièmement, nous pousse à réfléchir sur notre attitude lorsque nous donnons, nous y reviendrons, et nous faire comprendre que le montant du don est important. Jésus a tout donné pour que nous puissions être sauvés. Cet épisode nous pousse aussi à réfléchir sur notre manière de donner de l'argent à Dieu. Faut-il donner du nécessaire ou uniquement du superflu? Eh bien, notre deuxième point va nous aider à comprendre quelques principes utiles dans ce domaine, en ouvrant la réflexion sur une plus large compréhension de la Bible sur le sujet. Deuxième point, des clés pour la gestion de l'argent. Nous allons voir ensemble, en fait, 6 clés utiles pour la gestion de nos biens, des clés tirées de la parole de Dieu qui m'ont été inspirées d'un livre qui s'appelle « La joie de donner, découvrir le principe du trésor ». Je crois qu'ils ont changé de titre, ils ont inversé, ils ont dit « Le principe du trésor, découvrir la joie de donner ». Enfin voilà, c'est de Randy Alcorn. Donc je vous encourage à lire ce livre, un petit livre, très encourageant. Plusieurs d'ailleurs éléments ont été vus en fait ici vendredi. Donc vendredi qui vient de passer, nous avons eu une conférence intitulée « Le chrétien face à la société de consommation, quel choix pour un style de vie prophétique ?» avec Joël Favre. Disons qu'au vendredi, je crois que je prends la vidéo, je la mets dimanche et puis on a déjà une grande partie de tout ce qu'on va voir. Donc je vous encourage à la voir par la suite. Donc je vais parler encore d'autres choses ce matin, comme ça on complète. Une première clé importante pour la gestion de nos biens, c'est de comprendre que Dieu possède tout. Dieu possède tout. Nous sommes les gestionnaires de ses biens. Hein? Vous avez plusieurs textes. Un texte que j'aime bien, que je trouve intéressant, qui est très clair, c'est Agé 2.8, qui dit ceci, « L'argent est à moi, l'or est à moi, oracle de l'Éternel des armées. » Ça, c'est clair. C'est évident. C'est à lui. Nous avons plusieurs illustrations dans la parole de Dieu qui nous montrent que c'est à lui. Encore jeudi passé, lors de l'étude biblique, en parlant des terres du pays promis, hein, l'étude biblique sur Néhémie, eh bien, nous avons vu que les terres ne sont pas vendues à titre définitif, parce que le pays appartient à l'Éternel et le peuple en est le gérant. Hein, dans Lévitique 25-23, il est dit « La terre ne se vendra pas à titre définitif, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme immigrant et comme résident temporaire. » Se rend compte en fait que ça appartient à Dieu. Ou encore Salomon l'avait bien compris et l'a expliqué clairement lors des offrandes pour la construction du temple. Il dit, mais car qui suis-je, qui est mon peuple, que nous soyons capables de faire de pareilles offrandes volontaires? Tout vient de toi, et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. Donc lorsque nous donnons, la question à se poser n'est pas qu'est-ce que je vais donner à Dieu, mais plutôt qu'est-ce que je vais garder pour mes besoins et ceux des autres sur l'argent que Dieu me confie. Hein, souvent on se dit, bon, qu'est-ce que je vais donner à Dieu? Non mais attends, ça appartient à Dieu. Qu'est-ce que je vais garder pour moi, pour ma famille, pour les besoins de notre vie? Donc pris positivement, l'exemple de la veuve indique que pour cette journée-là, elle voulait montrer à Dieu qu'elle lui faisait plus confiance pour ses besoins que ces deux petites pièces qui n'avaient pas de valeur aux yeux des autres, mais qui étaient tout ce que Dieu lui avait donné de gérer à ce moment-là. Ce jour-là, il n'est pas dit que la veuve tous les jours a tout donné ce qu'elle avait. Ce jour-là, elle a donné tout ce qu'elle avait. Parce que c'est ce que Dieu lui avait confié ce jour-là. Et ça nous permet de comprendre. Il dit, ben, si ça lui appartient, je peux lui donner. Deuxième clé. Notre cœur se trouve là où nous plaçons l'argent de Dieu. Notre cœur se trouve là où nous plaçons l'argent de Dieu. Bon, il y a un texte hein, qui vous vient tout de suite à l'esprit, je pense, dans Matthieu 6. Hein, « Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Et là, on peut faire un exercice très simple. Vous pouvez réfléchir à vos investissements financiers. Où mettez-vous votre argent? Et ça vous donnera une piste pour savoir où est votre cœur. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous soutenez financièrement une œuvre, tout à coup vous vous y intéressez plus? Vous avez déjà vu ça? Vous priez plus peut-être même pour cette mission ou organisation. Et dès que on parle de cette organisation, tout à coup votre oreille écoute. Parce que notre cœur suit nos investissements. Que notre cœur nous avait poussé à faire.
Tout est lié, évidemment.
La veuve, en mettant de son nécessaire, montre où est son cœur. Elle est prête à se priver de quelque chose parce qu'elle veut donner à Dieu qu'elle aime. En tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre. Troisième clé. Notre résidence permanente est au ciel et non sur la terre. Pour celui qui est en Christ, sa résidence permanente n'est pas sur cette terre. Ça va passer. Elle est au ciel. Randy Alcorn, je lisais un petit peu hier, disait, ben, en fait, une bonne chose à faire parfois, c'est d'aller regarder une décharge. Tout passe. Tout ce qu'on a, même ce que vous avez sur vous maintenant, tout va passer. C'est pour ça que dans Matthieu 6, versets 19 et 20, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » En fait, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Celui qui est en Christ est un ambassadeur d'un autre royaume, de sa véritable patrie, qui n'est pas sur terre. Prenons un exemple. Si vous faisiez un séjour professionnel au Brésil pendant un mois, deux mois, comme ça, ou six mois, dans un hôtel, que vous pouviez rien prendre avec en Suisse quand vous rentrez, sauf vous pouvez transférer de l'argent pendant tout ce temps-là. Que feriez-vous? Est-ce que vous achèteriez des meubles luxueux pour votre chambre d'hôtel? Est-ce que vous rempliriez les penderies de très nombreux habits et vous dépenseriez le plus d'argent possible pour la réserve de nourriture? Ben, bien sûr que non. Puisque vous allez partir dans six mois. Vous enverriez l'argent dans votre résidence permanente. Vous ne dépenseriez que le nécessaire dans votre résidence temporaire. Parce que tout ce que vous auriez accumulé dans cette résidence temporaire disparaîtra. Alors que tout ce que vous aurez envoyé dans le lieu permanent vous précédera et sera à vous. La veuve a placé ce qu'elle avait dans sa résidence permanente. La présence de Dieu qu'elle retrouvera pour l'éternité. Les riches n'y ont mis que du superflu, investissant plutôt dans leur cité temporaire. Savez-vous combien d'argent vous pourrez emporter lorsque vous mourrez? En fait, les Égyptiens croyaient que tout ce qui était mis dans le tombeau accompagnait le défunt dans sa résidence éternelle. C'est pour cela qu'on a découvert des trésors immenses dans des tombeaux. Parce qu'ils pensaient que ça les accompagnait. Je crois que j'ai pas besoin de vous donner la réponse à ma question de qu'est-ce que nous prendrons avec nous lorsque nous mourrons. La quatrième clé, nous vivons le principe d'égalité. Nous vivons le principe d'égalité. Ça, on le retrouve dans 2 Corinthiens 8, on a lu le texte avant dans son ensemble. Je reprends juste les versets 13 à 15 qui dit « Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente, votre abondance pourvoira leur indigence, afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence, de la sorte il y aura égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. » La dernière phrase fait le lien avec la manne dans le désert. Tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant peut nous faire penser qu'il faut simplement tout donner et de vivre comme des pauvres et tout ira bien. C'est peut-être ce qu'on peut penser jusqu'à maintenant avec tout ce que je vous ai dit. Mais la Bible ne dit pas cela. Elle parle de l'attachement aux richesses que nous ne devons pas avoir. L'attachement aux richesses. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Luc 12. Elle parle de l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6:10. Ça, on en a parlé vendredi un peu plus longuement. C'est l'amour de l'argent. C'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Nous sommes des gestionnaires des biens que Dieu nous donne. Nous n'avons pas à donner plus que ce que nous pouvons. Se mettre dans le besoin pour être vu comme celui qui donne, en fait, c'est faire preuve d'orgueil, de désir de paraître. La veuve qui donne ici 2 pièces n'a pas agi pour se faire voir. D'ailleurs, si Jésus n'avait rien dit, peut-être que personne ne l'aurait vu. De plus, cette veuve a mis à ce moment-là ce qu'elle avait pour vivre. Il n'est pas dit, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'elle faisait cela tous les jours. Simplement, lors de son offrande, elle a été capable de mettre Dieu au-dessus de son nécessaire. Le prochain salaire ou don qu'elle recevra, elle l'utilisera également pour se nourrir, prendre soin de ses enfants si elle en a. Le but n'est pas de se mettre dans une situation de besoin. Elle a simplement donné ce qu'elle avait lors de cette offrande, cette semaine de Pâques, où elle est allée au temple. Et d'ailleurs, elle l'avait sûrement préparé avant, puisqu'on a appelé à préparer avant. Il le faisait aussi, préparer avant. Il est important de ne pas chercher à faire le concours de celui qui donne le plus et être dans le besoin de manière à ce que les autres doivent nous en sortir. Et inversement, ne pas faire non plus le concours de celui qui accumule le plus pour vivre le plus d'années possible sur ses réserves. Si vous n'êtes pas convaincu, lisez Luc 12, de 16 à 21, qui se termine en disant « Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » C'est un riche qui a accumulé beaucoup de trésors et puis en fait qui est mort avant de pouvoir en profiter. Donc là, c'était la clé du principe d'égalité. Cinquième clé, donner est l'antidote du matérialisme. Donner est l'antidote du matérialisme. Et là, un premier texte dans Éphésiens 4 est intéressant parce que c'est en lien avec celui qui veut tellement de l'argent qu'il va en voler. Il est capable de faire du mal pour en avoir encore plus. Et il a dit ici, ça c'est Paul qui le dit, que celui qui dérobe, qui dérobait, ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. L'antidote à cet amour de la richesse qui pousse même jusqu'à voler, dans Éphésiens, est clair. Travailler honnêtement, de sorte à pouvoir donner. À Timothée, Paul donne ce conseil. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. Quel est le moyen pour ne pas être contrôlé par sa richesse, selon Paul, guidé par le Saint-Esprit? Eh bien, c'est des œuvres bonnes, la libéralité et la générosité. Parce que lorsque l'on donne, on indique que cet argent n'a plus le contrôle sur nous, que nous ne sommes pas guidés par cette somme de laquelle nous nous détachons et dont nous ne pourrons plus disposer, ou qui ne pourra plus accaparer nos réflexions de comment on pourrait l'utiliser. La veuve, en donnant même de son nécessaire, indique que l'argent n'est pas son Dieu. Elle peut même donner ce qu'elle a besoin pour vivre. Elle n'y est tellement pas attachée qu'elle peut même se dire « je vais jeûner un jour » pour le donner à Dieu et avoir ce temps pour lui et avec lui. Plutôt que de chercher toutes les actions possibles dans le Lidl et Aldi de l'époque, avec ces 2-1 francs, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter pour vivre le plus longtemps possible? Et prier Dieu, évidemment, des SOS, tout le temps, que je trouve la meilleure action, etc. Non. Elle choisit de donner ces 2 pièces à Dieu pour ne pas être esclave de ce système. Un pauvre, comme un riche, peut être esclave de l'argent. Attention, il ne s'agit pas de donner notre argent, puis ensuite dire « qu'est-ce que j'aurais pu faire avec cet argent que j'ai donné ?» Ou bien calculer tout ce que j'ai donné ces dernières années, puis dire « ouh, mais j'aurais pu construire une belle maison. » Que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait, afin que ton aumône se fasse dans le secret, et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Sinon, en fait, on est toujours attaché, simplement là, c'est virtuel, mais on est toujours attaché. Il existe une expression qui dit « donner, c'est donner, reprendre, c'est voler ». Ne reprenons pas même par nos pensées. Ainsi, nous vivrons vraiment l'antidote au matérialisme. Et dernière clé pour aujourd'hui, la clé numéro 6. Dieu nous donne plus pour que nous donnions plus. Vous savez ça? C'est écrit dans... Là, on le voit. Alors, combien donner, hein? Alors, je vous dis déjà, en proportion à ce que nous recevons. Voilà, la réponse simple. En proportion à ce que nous recevons. Et lorsque nous recevons plus, nous donnons plus. Paul le souligne dans 2 Corinthiens 9, verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, en vue de toute espèce de libéralité, qui par notre moyen aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Et ça, c'est dans le contexte donc d'une collecte qui est faite et qui est envoyée à Jérusalem. Les dons que Dieu nous donne, que ce soit en argent, en capacité, en temps, sont des responsabilités. Nous ne sommes pas appelés à en jouir seuls, mais à les partager. C'est d'ailleurs en donnant qu'on a le plus de bonheur et non en accumulant. C'est intéressant, parce que dans Actes 20, verset 35, on trouve une parole de Jésus qui n'est pas dans les évangiles. C'est une parole qui est mise dans la bouche de Jésus, donc c'est lui qui a dû le dire avant de quitter ses disciples. Donc Actes 20, verset 35, où Paul est en train de parler là aux anciens d'Éphèse, c'est les dernières paroles de Paul avant qu'il les quitte et il ne les reverra plus. Il dit « En tout, je vous ai donné qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner » à recevoir. » Et la veuve a pu vivre ce bonheur de donner, même si ce n'était que 2 petites pièces de 1 franc, elle a donné selon ce qu'elle avait. Peut-être que l'année précédente, elle n'avait pu donner qu'une seule pièce. Et elle se réjouissait d'en pouvoir donner deux cette fois-ci. Or certains me diront en parlant des dons, « Ouais mais attends, tu ne nous as pas parlé des dîmes. » C'est quand même ce qui vient tout le temps, non? Quand on parle des dons, on parle des dîmes. Ce repère que Dieu a donné dans l'ancienne alliance à son peuple. C'est vrai, dans Lévitique 20, verset 30, il est parlé des prémices. Hein, parce que tout appartient à Dieu, donc on met de côté des prémices à Dieu. Alors parler des dîmes de l'Ancien Testament serait un peu plus complexe. Parce qu'il y en a plusieurs, et cela fait partie de l'organisation sociale du peuple d'Israël, qui d'ailleurs vivait des années sabbatiques, des remises de dettes, et des retours dans les propriétés de l'année du jubilé. Donc ça, c'est tout un pack. Donc je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Dans la nouvelle alliance, il n'existe plus de chiffre de base, parce que nous appartenons 100% à Jésus-Christ. Alors s'inspirer des repères que Dieu avait donnés à son peuple et de mettre par exemple 10% de côté dès l'arrivée du salaire ou d'un don ou d'un cadeau, c'est un bon réflexe qui permet de ne pas compter sur ses prémices et de se dire voilà, tout est à Dieu et je vais utiliser 90% pour moi. C'est un bon réflexe. Mais imposer un chiffre serait inadéquat. Car quand Dieu donne plus, c'est pour donner plus. Pas pour augmenter son train de vie, sans pour autant prêcher la pauvreté comme moyen de sanctification. On se rend compte que le sujet n'est pas épuisé, évidemment. Mais j'espère que les 6 clés que je vous ai données vous donneraient des repères utiles pour une réflexion saine et généreuse, qui ne se met pas des pressions, qui se réjouit des biens que Dieu confie et qui encourage la joie de donner. Quand Jésus appelle ses disciples pour leur parler de la veuve qui a mis plus qu'aucun de ceux qui a mis dans leur tronc, il leur enseigne à changer de regard et saisir la vraie valeur du don. Et si notre regard a changé aujourd'hui sur la vraie valeur du don, nous comprendrons alors un peu mieux le don de Christ pour nous également. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous parle de personnes anonymes, comme nous. Nous ne savons même pas si cette veuve a vu Jésus, a parlé à Jésus ou à ses disciples, sûrement même pas du tout. Et pourtant cette personne nous permet de réfléchir grâce à l'enseignement de Jésus. Et nous voulons Seigneur te prier de nous donner cette grâce de comprendre que c'est lorsque notre nécessaire est vu comme t'appartenant, et non pas notre superflu, que nous saisissons réellement ce qu'est vivre dans le royaume de Dieu. Seigneur, nous te prions de nous donner de la sagesse. Nous sommes conscients que la gestion de l'argent n'est pas quelque chose de facile. Mais j'aimerais te prier, Seigneur, que chacun ici puisse le faire en vivant librement, en n'étant pas esclave de l'argent. Mais que tout ce que nous avons vu ce matin puisse aider à enlever cette direction qui est si mauvaise de cet amour, de cet attachement aux richesses, et que tu nous donnes plutôt, Seigneur, d'utiliser les biens que tu nous donnes, de les faire fructifier même, de manière à ce que nous puissions être des bénédictions les uns pour les autres, et même plus loin encore. Dans le bon nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.